BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour, willkommen, bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine sur l'Allemagne. Un magazine avec un témoignage cette semaine, témoignage précieux, car vous le savez, on vous en a parlé sur cette antenne déjà. On commémore cette semaine, le 27 janvier, la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Une date qui correspond à celle de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, camp géré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, situé en Pologne. Plus d'un million de personnes y sont mortes, dans les chambres à gaz ou d'épuisement. Une véritable usine de la mort, à laquelle certains ont tout de même réussi à survivre. Ces rares survivants encore en vie sont très vieux aujourd'hui, mais l'un d'entre eux a accepté de se confier pour Vue d'Allemagne.
Mon nom est Justin Sonder, et je ne dis pas Justin, mais Justin en allemand. Ça me plaît davantage. Le nom est plus beau.
Justin Sonder, donc habitant de Chemnitz dans la Saxe, dans l'est de l'Allemagne. Il est âgé de 94 ans et parce que son seul tort était d'être juif, il a passé près de 2 ans dans le plus grand camp concentrationnaire et d'extermination du Troisième Reich. Il faut aujourd'hui parcourir les longs couloirs d'une maison de retraite de Chemnitz pour rencontrer Justin Sonder. Sa chambre est ici, là, sur la droite.
Allô.
Une petite pièce d'une quinzaine de mètres carrés. Justine est assis sur un canapé jaune au fond. Face à lui, une peinture sur le mur, peinture d'un centre-ville à laquelle il est très attaché.
This is Chemnitz, meine Heimatstadt.
Chemnitz, sa ville de naissance donc, une ville où Justine n'a pourtant pas toujours eu la vie simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, il reprend un grand verre d'eau avec nous et nous raconte son histoire. Si aujourd'hui sa mémoire lui fait parfois défaut, un certain nombre de souvenirs restent intacts. Souvenirs des années du nazisme d'abord, dès 1933 avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il n'a que 8 ans, mais Justin Sonder réalise lentement le chemin que prend l'Allemagne nazie à l'époque.
Je comprenais qu'il se passait un truc. Les juifs étaient poursuivis, les communistes, les sociodémocrates. Je comprenais, à moitié disons. Mais pourquoi, je ne savais pas vraiment.
Il ne sait pas vraiment pourquoi, mais Justine subit au quotidien. À l'école, un jour, il n'a plus le droit de participer aux cours de natation, c'est comme ça. Une autre fois, Justine n'a alors que 11 ans, ses camarades le portent en héros après un match de football. Cela ne dure que quelques minutes, ils se font sévèrement reprendre par le maître d'école qui débarque et hurle qu'on ne porte pas un juif comme ça. Dans le même temps, ses voisins n'ont pas le droit de se marier car l'homme n'a pas le bon sang, du sang juif. Et puis alors qu'il n'a que 13 ans, Justine est réveillée en pleine nuit par des bruits sourds qu'il n'a jamais entendus.
Et là, je suis allé dans la chambre de mes parents. Je les ai réveillés. Mon père est allé dans la rue et vite revenu en disant « Mais qu'est-ce qui se passe à Chemnitz, bordel ?» Les nazis ont mis le feu à la synagogue. Elle brûle. Des magasins avaient été cambriolés, etc. C'était 1938, le 9 novembre.
2 ans après, Justine doit complètement arrêter l'école. Le lycée lui est interdit. Il fait alors une courte formation de cuisinier à Berlin, puis revient à Chemnitz, où il ne peut échapper au travail forcé en tant que juif. Il doit travailler à l'usine, la même que son père, qui lui disparaît bientôt en 1942.
Ils ont pris mes parents et je suis resté seul.
Officiellement, ses parents sont partis au transport, comme on dit à l'époque, déportés en fait dans les camps de la mort dont Justine ignore encore l'existence. Mais plus pour longtemps, le 27 février 1943, un dimanche, sur le chemin du travail, 2 hommes l'attendent en bas de chez lui, à Chemnitz.
Il était tôt, très tôt. La Gestapo. Je suis arrêté. Oui, tu es arrêté, a dit la Gestapo.
Justin Sonder est conduit à la police, puis dans un train, direction la Pologne et Auschwitz, où il arrive finalement dans la nuit du 2 au 3 mars 1943. Il voit alors de la neige, des soldats en uniforme, mais ne sait pas où il se trouve. Les noms des personnes qui arrivent n'ont plus d'importance aux yeux des nazis. En file indienne, de nuit, chacun doit juste donner son âge et son métier.
Je l'ai donc fait. 17 ans, monteur. T'as encore de la famille en Allemagne ? J'ai dit oui. Qui ? Ma tante. Elle habite où ? À Chemnitz. T'écris à ta tante que t'es bien arrivé. J'ai répondu que je ne savais pas où j'étais arrivé. Tu vas déjà bien voir.
Scène surréaliste, Justine écrit alors une carte sur le dos du soldat en pleine nuit. Des cartes en fait de propagande nazie. On obligeait les prisonniers à faire croire que tout allait bien à l'extérieur. Justine est ensuite envoyée à gauche des soldats. Il ne le sait pas encore, mais il vient de réussir la première sélection. C'est comme ça que ça s'appelle en langage nazi. Les femmes, enfants, malades, hommes moins forts, dirigés à droite, eux, jugés trop peu productifs, pas aptes au travail, ne ressortiront jamais du camp vivant. Le jeune de Chemnitz lui arrive au bloc 10 du camp d'Auschwitz numéro 3, Monowitz. Il n'a désormais plus de nom, mais est le numéro 105-027 qu'on lui tatoue sur le bras, comme on tatoue alors tous les prisonniers du camp. Justine est condamnée au travail forcé, même par moins 20 degrés en hiver. Des semaines entières, 100 jours de pause, il porte des sacs de ciment toute la journée.
À transporter, c'est déjà lourd, mais en continu, ça n'allait pas. On est tombé par terre une fois, alors le SS nous a tabassés en hurlant « Feignant, sale porc, levez-vous !» C'était dément. C'est presque pas croyable. On était chassés au travail le matin sans avoir mangé en colonne. J'étais avec des jeunes. Tout le monde voulait survivre. C'était vraiment dur. Auschwitz ne doit vraiment jamais se reproduire une deuxième fois.
Les plus faibles ou ceux qui oseraient prendre deux morceaux de pain plutôt qu'un sont tués puis brûlés dans les fours du camp. Parfois, les exécutions ont même lieu sur place. Justine raconte par exemple ce jeune de 9 ans abattu devant ses yeux pour avoir pris un morceau de pain de trop.
On a tous regardé. Il a dit un mot qui est presque le même dans toutes les langues. Son dernier mot a été « maman » et il est mort. Il était de Thessalonique, en Grèce.
Justine, lui, survit comme il peut. À l'été 1943, il retrouve son père dans le camp. Il ne savait pas s'il était encore en vie.
Die Widerstandsorganisation des Lagers hat mich angesprochen und hat gesagt.
La résistance du camp m'a dit « On a trouvé ton père. Il est dans le camp principal et on veut que vous vous retrouviez ici. » Ils ont organisé cela.
Und da haben wir uns im Lager wieder getroffen.
On s'est retrouvés dans le camp et alors on s'est pris dans les bras et la première chose qu'il m'a dit c'est
« Man hat deine Mutter ermordet.
On a tué ta mère. On l'avait tuée.
Man brachte sie um. »
Justine a compris que s'il veut survivre, il faut rester fort, avoir une utilité aux yeux des nazis. Régulièrement, sur une place improvisée, les soldats allemands inspectent l'état physique des hommes présents. Les plus faibles sont transportés en camion un peu plus loin, gazés, puis brûlés. Justine Zonder survivra à 16 de ces sélections jusqu'au 18 janvier 1945.
Auschwitz a été évacué. Les Russes s'approchaient de plus en plus.
La guerre est enfin en train de prendre fin. Les Alliés depuis l'Ouest, les Russes depuis l'Est, tous encerclent petit à petit les nazis qui fuient avec leurs prisonniers. Mais pour Justine, l'horreur se poursuit. Ce sont les marches de la mort. Des dizaines et des dizaines de kilomètres à pied pour rejoindre d'autres camps de la mort. Ceux qui ne suivent pas le rythme sont exécutés sur place, en forêt ou au bord des routes. Les survivants sont eux parfois parqués tels des animaux dans des trains pour avancer plus vite. Cela semble être effacé de sa mémoire aujourd'hui quand on le rencontre, mais dans sa biographie, un livre, Justine Zonder raconte comment lui et les autres jetaient des corps à l'extérieur des wagons au fil des jours pour gagner quelques centimètres de place. 4 mois d'horreur de plus pour que finalement, en avril 1945, Justine Zonder soit libérée par les Américains en Bavière. Là, un prisonnier français avec qui il marche depuis des jours lui conseille de ne pas retourner à Chemnitz, sa ville d'origine.
Ce jeune m'a dit « Mais tu veux aller faire quoi dans cette ville de mort? Viens avec moi à Paris. Là-bas, tu iras bien. Viens avec moi. » Mais je ne suis pas allé avec lui et suis allé direction Chemnitz dans l'espoir de retrouver des membres de ma famille. J'ai alors marché vers la Saxe, vers le nord, et lui vers le sud, direction la France.
En chemin, Justine s'arrête dans des restaurants où, avec son numéro d'Auschwitz tatoué sur le bras, on sait d'où il vient et on lui donne à manger. C'est le cas notamment ce jour de début juin 1945.
J'étais assis dans le restaurant et là, un ancien coprisonnier d'Auschwitz me dit regarde en face. Tu dois le reconnaître. Il vient d'Auschwitz, mais je n'ai pas reconnu.
Ich hab's nicht erkannt. Er sagt mir tausendmal die Plätze.
Alors il m'a dit, viens, on échange de place. Alors on échange de place, je regarde de nouveau, et là je crie.
Und ruf ganz laut, mein Vater.
Mon père. On a ensuite marché à deux directions Chemnitz. On s'était retrouvés le 5 juin, le jour de la date anniversaire de ma mère.
Alors, retour à Chemnitz, Justin Zander et son père Léo découvrent un centre-ville détruit à 80% par les bombardements. Mais il reste et se réinstalle dans cette ville meurtrie. Justin deviendra policier. Son père, lui, meurt de ses blessures 4 ans plus tard. Le jeune de Chemnitz n'oubliera évidemment jamais ce qu'il a vécu et témoignera lors de plusieurs procès nazis. Il racontera aussi en détail son histoire à ses 3 enfants, ainsi que devant plus de 500 classes de sa région, avec toujours le même message.
Nous n'avons pas besoin de guerre, nous avons besoin de paix. Et ainsi on peut travailler, rencontrer une femme, ou une femme peut rencontrer un homme. Nous pouvons avoir des enfants, et les enfants doivent être élevés pour devenir des combattants de la paix. On doit se battre pour ça. Il faut apporter sa contribution pour la paix.
Et Justine, du haut de ses 94 ans aujourd'hui, de répéter inlassablement, encore une fois, cette histoire ne doit jamais se répéter. C'est sur ces paroles de paix que prend fin Vue d'Allemagne cette semaine. Merci beaucoup à Justine Zander pour son témoignage. On lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite et cette année 2020. Vous pouvez écouter ce magazine avec les sons originaux en allemand, sans traduction, sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous avec Anne Letouzé la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, alles Gute, portez-vous bien, auf Wiedersehen, tschüss.